autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour remonter le temps aujourd'hui et explorer notre préhistoire dans toute sa diversité, et surtout les continents ou presque, à l'occasion du 18e congrès mondial de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, qui rassemble à Paris, devenue cette semaine capitale mondiale de la préhistoire, les plus éminents préhistoriens, archéologues, anthropologues du monde entier, autour d'un thème qui fait singulièrement écho à nos préoccupations actuelles, l'adaptation et la durabilité des sociétés préhistoriques et protohistoriques face aux variations climatiques. Regard croisé de nos invités, les préhistoriens Louis Oosterbeek, secrétaire général de l'USPP, Abdoulaye Camara, vice-président pour l'Afrique de l'USPP, et les archéologues Kwaku Simeon-Kwesi et Erika Gonzalez, venus respectivement d'Abidjan et de Sao Paulo pour partager leurs recherches, leurs découvertes et leurs interrogations autour de la question « Comment retracer les préhistoires du monde ?» Bienvenue. Bonjour Erika Gonzalez.
Bonjour.
Bonjour Abdoulaye Camara.
Bonjour Caroline.
Bonjour Louis Oosterbeek.
Bonjour
Caroline. Bonjour Kwaku Simeon-Kwesi.
Bonjour.
Ravi de vous avoir vraiment tous les quatre en direct. C'est une vraie chance. Je rappelle que vous avez fait le voyage depuis Abidjan, Kwaku Simeon, depuis Lisbonne, Louis. Depuis Dakar, Abdoulaye, et depuis Sao Paulo pour Erika. C'est pas mal pour ce 18e congrès mondial de l'Union internationale des sciences historiques et proto-historiques, vénérable et prestigieuse organisation qui remonte au 19e siècle. Et dont vous êtes le secrétaire général, Louis Oosterbeek. Vous êtes également membre du Conseil international de philosophie et de sciences humaines de l'UNESCO. Vous êtes préhistorien, archéologue. Vos axes de recherche portent sur l'origine de l'agriculture et sur l'art rupestre. Vos terrains de prédilection, Louis, sont la péninsule ibérique, mais aussi l'Afrique lusophone et le Brésil. Quand on travaille sur les sociétés préhistoriques, on ne connaît pas vraiment de frontières.
Absolument.
Et si Paris est pour cette semaine redevenue la capitale mondiale de la préhistoire, on peut dire que c'est un peu un retour aux sources pour cette belle organisation qui remonte au 19e siècle. Hein, les...
Certainement, la préhistoire a largement commencé en France. C'est en fait en Europe, mais largement en France, avec des personnalités telles que Boucher de Perthes et d'autres qui ont en effet nommé la préhistoire, créé des mots comme paléolithique, néolithique, qu'on utilise même jusqu'à aujourd'hui, même si on a changé un peu le contenu de ces mots. Et c'est intéressant, c'est bien d'être ici à Paris. Pour plusieurs de nous, Paris ce fut, et la France aussi, le cadre de notre propre formation. Alors c'est une option logique.
Oui. Une option logique, aujourd'hui où on parle d'histoire monde, la préhistoire elle a toujours été mondiale. Hein.
Ah,
il n'y a pas besoin de le... On le sait encore plus aujourd'hui, mais...
Bien sûr, aujourd'hui on parle beaucoup d'interdisciplinarité et même transdisciplinarité. Pour un préhistorien du 19e siècle, mis à part les mots, bien sûr, ce serait quelque chose d'évident. Tous les préhistoriens faisaient ça, ils engageaient les connaissances d'histoire, d'anthropologie, de géographie, même de mathématiques depuis le début.
Abdoulaye Camara, vous êtes vice-président de cette organisation, de cette société pour l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, berceau de notre humanité, où les traces des premières sociétés humaines préhistoriques sont bien loin encore d'avoir livré tous leurs secrets. Voilà pourquoi le préhistorien et archéologue que vous êtes, Abdoulaye, avait choisi de revenir creuser notre passé commun, on va dire, sur le continent et au Sénégal notamment, dans le delta du Saloum, après avoir fouillé le site de Totavel, dans le sud de la France, avec aux côtés d'Henri de Lemelet. La France a bien été pour vous aussi le berceau de cette préhistoire. Vous êtes aujourd'hui chercheur à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, professeur associé à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Vous avez également, Abdoulaye Camara, été conservateur du musée historique du Sénégal sur l'île de Gorée et du musée d'art africain de Dakar. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui, alors notamment à l'ouest du continent, pour exhumer les traces de la préhistoire, de la proto-histoire, on va revenir sur les termes, et de l'histoire des sociétés humaines en Afrique.
Et, je pense que, en retraçant un peu
c'est vrai, mon parcours. Je suis bien content de faire une émission avec mon ami Louise Osterbeck. Je suis un peu plus âgé que lui parce que quand il est venu pour la première fois, c'est de la fouille à Totavel, c'est là où on s'est connus.
Tous les deux, vous vous êtes connus autour d'Henri connu de la Mêlée, dans le sud de la France.
Vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais, Abdoulaye, moi j'étais là pour la première fois dans une fouille en France. Et Abdoulaye, c'était quelqu'un qui travaillait toute la journée en organisant la fouille avec Henri de la Mêlée. Et toute l'administration, si vous voulez, du chantier. Et puis, il faisait la fête avec nous. Et puis, il nous quittait et allait faire sa thèse de doctorat. On se demandait, mais est-ce qu'il dort? Mais finalement, oui, voilà. Mais
en fait, comment vous faites? Comment vous avez fait, Abdoulaye Camara?
Dans l'équipe d'Henri, on ne dort pas.
Oui, on ne dort pas.
On travaille.
On a
c'est
appris ça.
Mais c'est une chance extraordinaire de travailler sur un chantier de fouilles de Lemley. C'est un chantier où gravitent 60 à 80 étudiants. Et mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit arriver du monde entier, des professionnels de la discipline préhistoire, des paléontologues, des paléologues, la multidisciplinarité. Et quand on est étudiant, on apprend énormément de choses. Je pense que c'est là où l'on apprend le plus de choses. Parce que chaque jour, autour des cafés, c'est vrai, on peut rigoler avec des gens, mais en même temps, on apprend. Bon, formé au bout de 3 ans, je suis reparti au Sénégal, pas pour travailler dans le Delta du Saloum. D'abord, c'était ce que j'ai appris. J'ai appris à aimer les terrasses du Roussillon, au niveau de Totavel.
Ouais.
Et les terrasses sont chargées de préhistoire, des galets aménagés et autres. Donc, il y avait une stratigraphie. Je me suis dit, c'était également à l'époque où on disait qu'il n'y avait pas de stratigraphie en Afrique de l'Ouest. Mais je me dis, si je m'intéresse peut-être aux terrasses, j'aurai la chance d'en trouver. Mais la chance que j'ai également, c'est que j'ai été envoyé en France parce que j'ai travaillé à l'Université de Dakar avec une institution qui est l'Institut fondamental d'Afrique noire, mais c'est en fait l'ancien Institut français d'Afrique noire.
Fondé, si je ne m'abuse, par Théodore Monod.
Par Théodore Monod. Et je peux vous dire qu'en 1938 déjà, Théodore Monod avait publié le premier biface trouvé au Sénégal pour montrer déjà qu'il y avait certainement de l'achaléen dans cette partie du monde. Et du coup, il y a énormément d'émissions également qui se sont déroulées un peu partout parce qu'il y avait des centres IFAN contactés un peu partout dans le monde, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Dahomey, qui est devenu le Bénin, au Togo. Donc, un peu partout, il y a eu des collections qui convergeaient vers Dakar et vers le Musée de l'Homme, montrant que le passé archéologique était extrêmement riche. Bon, après plusieurs années donc, de préhistoire de la Falémée, je me suis rabattu vers la fin de mon cycle sur le delta du Saloum pour travailler sur les amas coquillés.
Les amas coquillés, on va y revenir, hein, très important tout le long de la côte, avec vous aussi d'ailleurs, Kwaku Siméon Kwasi. Alors vous êtes archéologue, maître de conférence à l'Institut des sciences anthropologiques de développement de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes spécialiste donc de ces amas coquillés que vous étudiez sur toute la zone côtière de Côte d'Ivoire, à la fois pour montrer l'importance de tous ces sites dans la préhistoire, dans l'histoire précoloniale et coloniale de la Côte d'Ivoire. Mais cette recherche, elle met aussi en lumière l'érosion marine de la côte atlantique sud, tient donc, et l'impact des activités humaines sur ce patrimoine encore très peu exploré. Là aussi, le chantier est vaste et finalement, l'archéologie, elle nous renseigne sur le passé, mais aussi sur notre présent et sur notre avenir possible, Kwaku Siméon.
Oui, effectivement. Et là, bon, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de continuer. Alors, je suis très heureux qu'Abdoulaye Camara soit là. C'est, en archéologie, on a besoin de dévanciers pour avancer.
De modèles.
Ouais. Et Abdoulaye Camara, c'est une autre génération, mais qui s'est fait de la place à la génération à laquelle moi j'appartiens. Et donc, merci de nous apporter toujours cette confiance-là qui nous permet d'avancer, d'ouvrir aussi les canaux, pour qu'on puisse s'insérer aussi dans ces canaux. Alors, pour revenir à l'archéologie, effectivement, si on remonte un peu dans l'histoire, il fut un temps où on disait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et donc, il fallait aller chercher sous la terre les documents qu'il faut pour pouvoir bâtir cette histoire. Alors, la tradition orale a joué son rôle, mais l'archéologie a joué beaucoup plus que ça. Et donc, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que l'archéologie a joué son rôle. Dans le même moment, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour construire le présent et même pour envisager d'une certaine façon le futur, c'est dans le passé qu'il faut aller chercher les ressorts. Alors, chez nous, il y a une image, c'est cet oiseau qu'on appelle le Sankofa qui regarde en arrière, mais qui a une patte tournée vers l'avant. Et donc, c'est pour dire que pour aller de l'avant, il faut aller aussi s'inspirer de ce qu'il y a derrière, parce que c'est sur le passé qu'on peut s'appuyer pour construire l'avenir. Et je pense que c'est cela que les Africains doivent comprendre. Et je pense aussi que de plus en plus, on arrive à le comprendre, et c'est tant mieux, parce qu'il y a des champs qui s'ouvrent pour l'archéologie. La nouvelle génération commence à s'intéresser à l'archéologie, et je pense que c'est tant mieux.
C'est tant mieux, parce qu'effectivement, voilà, ça ouvre des questions sur le passé, mais aussi sur le présent et sur l'avenir. Le Sankofu, ça pourrait être l'oiseau symbole des archéologues et des préhistoriens, finalement.
C'est ça.
Erika Robran-Gonzalez, vous êtes historienne, anthropologue et archéologue à l'Université de Sao Paulo au Brésil, directrice scientifique de l'Institut Documento au Brésil également, et vous présidez une commission scientifique au sein de cette organisation, l'USPP. Vos travaux, j'ai envie de dire, sont un peu au carrefour de toutes nos interrogations aujourd'hui, puisque vous travaillez sur l'impact des recherches transdisciplinaires en archéologie, leur impact sur l'environnement, leur impact sur les populations. Comment, justement, on étudie, on préserve ces héritages culturels et environnementaux? Comment l'archéologie peut soutenir une approche durable? Vous travaillez sur toutes ces questions-là.
Oui, le défi actuel de l'archéologie globale et aussi au Brésil consiste à intégrer les sciences sociales dans des projets transdisciplinaires. Ça veut dire des projets formés par les équipes avec les scientifiques et aussi par les membres des communautés locales. Le but est de contribuer à la quête des modèles durables vis-à-vis des défis mondiaux.
Et quand vous dites les communautés locales, souvent ce sont notamment au Brésil les Indiens qui sont directement sur ces terres à étudier et à préserver, hein, c'est ça?
Oui, oui. Ma spécialité est justement la réalisation des projets collaboratifs auprès des communautés locales, y compris des groupes indigènes en Amazonie.
On va revenir sur tout ça. Merci Erika, et de parler français en plus, on l'apprécie autour de la question. Comment retracer toutes les préhistoires du monde? On a parlé de Henri de Lemley. Je propose d'écouter un éclairage de ce préhistorien avec qui vous avez donc fait votre thèse, tous les deux, sur le site de Totavel dans la cône de l'Arago. On va écouter Henri de Lemley qui était notre invité pour la publication de ses mémoires avec sa femme, Marie-Antoinette de Lemley, mémoire de préhistorien.
Il y a plus de 50 ans, je pourrais dire 60 ans, que nous travaillons dans le domaine de la préhistoire, mon épouse Marie-Antoinette et moi-même, et nous avons eu la chance d'assister à vraiment la découverte de l'évolution de l'homme, puisque au cours de ces 60 dernières années, des découvertes fabuleuses ont été faites sur les différents continents, dans tous les pays du monde, et aujourd'hui, au bout de 60 ans, on peut bien connaître les grandes aventures de l'homme préhistorique, l'évolution morphologique et l'évolution culturelle des hommes de la préhistoire, grâce à des fouilles de mieux en mieux conduites, de plus en plus rigoureuses, mais aussi grâce à des technologies très modernes auxquelles font appel les chercheurs, les préhistoriens, pour pénétrer dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques. Et aujourd'hui, grâce à ces nouvelles découvertes qui se sont multipliées au cours de 60 ans, nous pouvons suivre les grandes étapes de l'évolution humaine.
Qui veut réagir à ce que vient de dire Henri de Lemley? Est-ce qu'on peut dire que tout a changé en 50-60 ans, notamment grâce aux outils? Abdoulaye Camara.
Je trouve que c'est vrai que quand je suis arrivé en France, déjà vers les années 80, c'était tout à fait nouveau d'avoir ces grands chantiers où il ne s'agit pas seulement de fouiller. À côté du fouilleur, il y a celui qui étudie les pollens, donc la végétation. Il y a celui qui étudie même les dents de rongeurs. Il y a ceux qui étudient les artefacts, les outils préhistoriques. Donc vraiment, c'est tout un monde complexe avec des tas de spécialités différentes, mais des spécialités complémentaires. Donc, et c'est ça, en regardant ces grands chantiers, c'est ce qu'on apprend. Bien sûr, pour avoir des chantiers de ce type, ce n'est pas aussi évident. Il faut non seulement, ça demande des moyens, et ça demande surtout des collaborations scientifiques entre beaucoup d'universités, partenaires. Et je pense que c'est une idée qui a été lancée depuis longtemps, et les Français quand même sont bien précurseurs là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est la pluridisciplinarité qui fait que les résultats sont conséquents.
Les résultats sont vraiment conséquents, Louis Osterbach, et c'est pluridisciplinarité, bien sûr, et en plus chacun dans sa spécialité, avec des outils de plus en plus sophistiqués pour dater, examiner, fouiller, revenir après en laboratoire sur ce qu'on trouve dans les fouilles. C'est ça, on peut même revenir sur d'anciens sites aujourd'hui.
C'est absolument vrai, et les choses changent rapidement, même pas en 50 ans. Je me souviens très bien que les choses ont changé dramatiquement depuis que moi j'étais un étudiant et ce que je dois apprendre à mes étudiants aujourd'hui.
Mais ça n'a plus rien à voir. Hein. C'était des sciences très humaines.
Je voudrais quand même aller dans, si vous me permettez, dans l'autre sens, pas pour contredire ce que dit le professeur Henri de Lamelette, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, lui, il est un grand exemple, il nous fut pour nous tous, d'incorporer à chaque fois qu'il y avait un développement scientifique dans d'autres disciplines, de l'incorporer dans la préhistoire. Et c'est ce qui m'a frappé quand j'étais arrivé aussi à Totavel, c'est que je ne m'attendais pas à trouver autant de spécialités. Il y avait déjà à ce temps-là des experts de différents types de faune, géologie, etc. Mais il y a une chose qui reste, qui est la logique de base de la recherche en préhistoire. C'est un carrefour des sciences, mais à mon avis, il y a une colonne vertébrale, c'est la stratigraphie. On construit la chronologie.
Stratigraphie, c'est-à-dire par
la séquence des couches et des différentes évidences matérielles de l'évolution humaine et sa répartition géographique. Ces deux dimensions, le temps et l'espace, qui sont matérialisées, ça reste.
Matérialisées dans la roche dans tout ce qu'on peut récupérer.
Dans les sédiments et dans les objets. Et bien sûr, tout le développement scientifique est extraordinaire pour nous permettre d'aller au-delà, pour trouver parfois, par exemple avec la génétique, des liens qui seraient inaccessibles autrement. Mais si on perd cette approche au départ de poser les questions sur le comportement humain, première question, dans l'espace et dans le temps, je dirais que ça sert à très peu les contributions des labos.
Et dites au départ, il faut vraiment poser ces questions-là et le temps et l'espace. Et c'est obligatoire.
Je le dis parce qu'aujourd'hui, un aspect qui est très positif pour la recherche scientifique, cette spécialisation, entraîne aussi, pas seulement en préhistoire, en sciences en général, entraîne le danger de perte de la vision globale. Et à la fin, ça peut se terminer pour la production d'une série de choses que Hegel disait, c'est l'érudition. Et l'érudition, Hegel disait, c'était une quantité de choses inutiles, dépourvues d'intérêt. Parfois, et nous le savons tous, les publications scientifiques, pas seulement en préhistoire, tombent sur une hyper-spécialisation des résultats.
Il ne faut pas oublier la vision globale.
Ouais, l'USPP, ce n'est pas du tout ça. Ce que Henri de Lamelay a fait toute sa vie et qu'il continue à faire, ce n'est pas du tout ça. Et c'est ça qui permet de d'un côté, faire la spécialisation du scientifique, mais par contre, faire ce que Erika disait, le lien avec la société. La société nous demande, la société n'est pas tellement intéressée si on arrive aux conclusions à travers cette méthode ou cette autre, qui parfois sont trop spécialisées, mais elle est intéressée à connaître ses origines et
évidemment,
son évolution.
La question de nos origines fondamentale, avec évidemment retour sur le terrain, bien sûr, on va y revenir autour de la question pourquoi et comment retracer les préhistoires du monde. Et si c'était par nostalgie du futur, saudade du futur, vous allez dire mieux que moi, Erika.
Saudade du futuro.
Renata Rossa, sur RFI.
Oh,
La brésilienne Renata Rosa sur RFI. Je vais vous laisser, Erika, désannoncer le titre. Saudades do futuro.
Saudades do futuro.
Ah, c'est beaucoup plus joli comme ça. Nostalgie du futur, merci. Erika González, vous êtes en notre compagnie. On a dû laisser filer l'archéologue Luis Osterbeck qui devait donner une conférence tout à l'heure. Donc il était un petit peu pressé sur l'art rupestre. Nous restons dans le sujet. Mais nous sommes toujours en compagnie d'Abdoulaye Camara et de Kwaku Siméon Kwasi. Je vous propose de faire un petit détour par le Cameroun maintenant sur des traces très anciennes d'occupation humaine, tessons de poterie, outils en métal, sol noir, qui sont les signes d'une très ancienne agriculture. Sur ce site situé à 120 km de Yaoundé, fouillé par des archéologues camerounais et par l'archéologue Geoffroy de Saulieu de l'IRD que nous avons joint par téléphone.
Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est d'abord le berceau de l'humanité, donc il y a pratiquement toujours eu des hommes dans cette région. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que même les Africains souvent me demandent « mais qu'est-ce qu'on peut bien trouver chez nous ?» En fait, on trouve plein de choses parce que la main de l'homme a énormément modifié ses forêts tropicales, beaucoup plus qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on voit une espèce de fouillis de végétation. En réalité, ce fouillis de végétation, entre guillemets, est fortement structuré par une occupation humaine qui s'est accumulée sur plusieurs millénaires. Et en se déplaçant, en cultivant, en coupant les arbres, en les brûlant, l'homme a sélectionné consciemment ou inconsciemment toute une palette d'espèces végétales et animales qui se sont adaptées et qui ont évolué avec lui. Donc oui, il y a eu des civilisations au sens large en Afrique centrale. On les connaît très très mal parce qu'il y a eu très peu de recherches. Ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas du tout des sociétés faméliques de chasseurs-cueilleurs affamés comme on pouvait les imaginer jusque dans les années 60. Les sociétés tropicales d'Afrique centrale sont des sociétés qui étaient fortement structurées, avec des hiérarchies, avec une quête de la richesse très importante. Et elles ont pu produire des inventions, des réalisations qui structurent encore aujourd'hui le monde moderne. Par exemple, la métallurgie du fer est l'une des inventions de l'Afrique centrale. Et puis, il y a également tous les cultigènes qu'on a appris à cultiver, qu'on a domestiqués en Afrique centrale et qui aujourd'hui se sont répandus dans le monde entier, comme le palmier à huile, qui est si important pour la production alimentaire mondiale.
Comment se fait-il, Geoffroy de Saulieu, qu'on l'ait ignoré si longtemps, et j'ai envie de dire qu'on continue aujourd'hui d'ignorer cette préhistoire dans le bassin du Congo, et notamment au Cameroun?
Alors, d'abord parce que l'archéologie a été lancée par des Occidentaux. Ces Occidentaux venaient avec un imaginaire qui était sculpté au goût de la Méditerranée, puisque autrefois on pensait que toute civilisation venait de la Méditerranée. Et il y a une autre raison à cela, c'est que quand les premiers Européens sont arrivés, quand ils ont croisé le long des côtes d'Afrique tropicale, ils ont trouvé des côtes complètement abandonnées. Ils n'ont pas vu qu'il y avait eu des villes quelques décennies avant leur arrivée, puisque apparemment, les grandes d'Afrique de l'Ouest se sont effondrés quelques décennies à cause de la peste noire probablement. Et donc quand les premiers Européens arrivent, ils ont l'impression de trouver une terre vide. Mais ils ne s'imaginent pas que c'est une terre qui a été complètement bouleversée par la peste noire qui a traversé le Sahara, qui a aussi bouleversé l'Europe occidentale, soit dit en passant.
Qui veut réagir à cet éclairage, Abdoulaye Camara?
Oui, j'aimerais réagir sur deux niveaux. Mm-hmm. D'abord sur le berceau de l'humanité. C'est vrai que les Africains sont fiers, que ce soit l'Afrique, que ce soit le berceau de l'humanité. Mm-hmm. Parce que quand on a vu les débuts de la préhistoire, on a vu que tous les continents essayaient d'avoir ce privilège de dire, voilà, l'humanité est née ici.
L'humanité est née en Afrique. Voilà. Hein. Ouais.
Parce que quand même, je pense que ce qui fait la différence de l'homme par rapport aux autres animaux, c'est qu'on est toujours en train de nous dire d'où est-ce qu'on vient et peut-être où est-ce que l'on va.
De se poser ce genre de questions-là.
Voilà, on se pose ce genre de questions. Et si on trouve les plus anciennes traces au niveau du continent africain, c'est sûr qu'il est bon que tous les écoliers africains puissent connaître
Toumaï. Et ailleurs
Toumaï,
aussi, hein, et dans le monde aussi,
connaître Toumaï, qui est le Chadien, connaître Lucie, qui est la grand-mère de l'humanité, comme on dit, etc. Et je pense que les gens sont fiers de ça. Mais également, j'interviens un peu sur l'arrivée des Européens, en fait, en Afrique. Je pense que, bon, ça ne s'est pas fait, ils ont trouvé la côte vide, c'est parce qu'en fait, au début, ça ne les intéressait pas d'aller à l'intérieur des terres. N'oublions pas que ce sont les Portugais qui sont arrivés en premier, Ils sont arrivés au Sénégal, à Gorée, en 1444. Et vers la fin du XVe siècle, ils avaient déjà doublé le Cap de Bonne-Espérance pour trouver la route des Indes, etc. Mais ce qui les intéressait avant tout, c'était de prendre des Africains, dans un premier temps, de les amener à Lisbonne et même de les vendre. En 1444,
ils étaient plus intéressés par déjà, la traite que par, traite. Par fouiller et par après, aller à l'intérieur.
Quand on a trouvé l'Amérique, bien sûr, ce qui les intéressait, c'était de partir de prendre cette force noire et de l'amener ailleurs. Donc, ces relations ont dominé, ont existé jusqu'au 19e siècle. À partir du moment où la traite a été abolie, où il fallait maintenant mettre en valeur le continent africain, mettre en valeur la colonisation, on va s'intéresser à ce que les explorateurs avaient déjà découvert, parce qu'il y avait bien sûr, dans un premier temps, des explorateurs qui sont rentrés dans le continent africain, qui ont vu la richesse que ça pouvait offrir et autres. Et en ce moment, la colonisation s'est mise en place à partir de la conférence de Berlin, je crois.
D'où l'intérêt aujourd'hui de revenir et d'écrire une autre histoire, une autre préhistoire, une autre proto-histoire. Proto-histoire, ça veut dire qu'au fond, pour des sociétés qui n'ont pas d'écriture, mais qui sont plus récentes, préhistoire, c'est plus ancien, proto-histoire, on arrive à l'histoire. Siméon.
Voilà. Alors, concernant la proto-histoire du point de vue de la définition, c'est, on va dire, quand l'homme commence à découvrir le fer, par exemple, les autres métaux, et que c'est d'autres outils qui ne sont plus des outils de pierre taillée ou de pierre polie, mais cette fois-ci, vous avez des outils en métaux. Voilà, donc, on rentre dans la proto-histoire, et dans le même moment, du point de vue historique, on voit aussi que quand dans d'autres endroits du monde, certaines populations connaissent l'écriture, d'autres n'ont pas encore connu l'écriture, et donc c'est une période, on va dire, assez transitoire, mais où l'homme décide de franchir le pas. Cette fois-ci, la matière change et on découvre les arts du feu, qui étaient déjà connus avec la poterie ou la céramique déjà dès le néolithique. Mais ici, la matière de base change. Et donc, on rentre dans la proto-histoire et c'est toute une autre histoire aussi de l'histoire.
C'est une autre histoire dans laquelle vous avez des traces, des restes beaucoup plus faciles à étudier. Vous travaillez, Kouakou Siméon, beaucoup sur les amas. Coquillés, c'est ça. C'est-à-dire dans les coquillages, dans les strates de coquillages sur la côte, où on retrouve des traces d'une humanité très ancienne.
C'est ça. Alors, du point de vue de la définition même déjà, les amas coquillés, en fait, ce sont des dépotoirs. Bon, on va dire à ciel ouvert. Voilà. Et on les retrouve très souvent pour ce qui concerne les régions là où nous travaillons, en bordure de lagunes. Et donc, vous trouvez différentes espèces, soit des lamellibranches ou des gastéropodes. Bon, ce sont des familles ou des espèces de coquillages. Et là, ce que l'homme fait... Et ça a fait aussi l'objet de débats des préhistoriens paléolithiques et autres, mais même bien avant, ont eu à plancher sur cette question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, quand il vit dans un environnement, il ne va pas chercher très loin les éléments de sa subsistance. Et donc ici, il va, pour nous qui étudions les amas coquillés, qui pensons que c'est plutôt une invention de l'homme, eh bien l'homme va pêcher ses coquillages. Très souvent, il va utiliser la chair de ses coquillages pour aller pêcher aussi d'autres poissons. Et donc, il va entasser à des endroits spécifiques ces tas de coquillages, ce qui en reste. Et à l'intérieur de ces coquillages, il va y mettre tout ce dont il n'a plus besoin. Par exemple, c'est la céramique qui est cassée. Ce sont les restes alimentaires. Et ce qui est extraordinaire, surtout dans les régions là où nous travaillons, où le sol est très acide, on voit que même depuis le néolithique, parce que là, ce sont des sites néolithiques pour ce qui nous concerne. Il y a des sites aussi qui datent de la proto-histoire dans certaines régions. Mais pour le néolithique, en Côte d'Ivoire, les sites sont quand même assez rares. Mais on se rend compte que sur la côte, les amas coquillés arrivent à conserver le maximum de documents. Or, l'archéologue, on a dit son ouvrage...
Oui, ce sont les documents qu'il peut trouver. Au fond, vous fouillez les poubelles du néolithique.
On fouille les poubelles du néolithique pour dire comment les hommes du néolithique vivaient, comment est-ce qu'ils se nourrissaient, comment est-ce qu'ils pêchaient aussi et quelles sont les variétés de coquillages. Est-ce qu'ils se tournaient vers la mer? Est-ce qu'ils c'était plutôt vers la lagune? Parce qu'on trouve aussi des coquillages d'origine aussi terrestre. Donc, finalement, ça permet de voir que l'homme touche un peu à tout. Et dans le même moment, si au néolithique, on se rend compte qu'il pêche déjà des coquillages et des restes de poissons qui proviennent de la mer, ça veut dire qu'il a développé certaines aptitudes qui lui permettent d'aller au fin fond de la mer pour aller chercher tout ce dont il a
besoin.
Donc
finalement, dans ces amas coquillés, dans ces poubelles du néolithique et de la préhistoire, on peut, à travers cette lecture, relire l'histoire, l'évolution de notre humanité, Abdoulaye.
Oui, et c'est là que je vais vous l'emmener un peu encore à Théodore Monod, qui est le premier directeur de l'Institut français d'Afrique noire.
Aujourd'hui,
dans ses premiers articles, il a écrit un article sur pour les amas coquillés au niveau du Sénégal en disant de fameux mangeurs de coquillages. Parce que nous avons encore la chance au Sénégal, dans le delta du Saloum, où quand on a faim, on va dans l'eau et on récolte ces mollusques et on va les préparer sur place. Ouais. Et or, ça, cette activité de primaire qui est presque d'ordre préhistorique, on a faim, on va faire de la cueillette. Ça, c'est, on dit que la préhistoire, c'est l'époque
des chasseurs-cueilleurs.
Donc, jusqu'à présent, ça existe au niveau du Sénégal. Les ressources naturelles sont suffisamment sauvegardées et c'est ce qui a amené que le delta du Saloum soit sur la liste du patrimoine mondial. Donc, disons que au niveau du Sénégal, c'est vrai, on mange des coquillages, on les envoie, comme dit Siméon, ça peut rester des tas de dépotoirs. Mais nous avons des traditions après culturelles et qui se sont greffées là-dessus. Dans le Saloum, c'est une zone de mangrove et autres. Donc, pour enterrer des gens, on ne va pas les mettre directement dans le sol. Il y a toujours cette croyance qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dans un environnement humide, ça ne se passe pas. Donc il vaut mieux tapisser la sépulture avant de poser le corps, au moins d'une bonne couche de coquillage. Et vu qu'également il y avait une tradition où les gens, à leur mort, on mettait le toit de leur case et puis on recouvrait au-dessus, sur certains endroits, du sable qui faisait donc tumulus, dans le Saloum, au lieu que ce soit des sables, ce sont des coquillages. Donc nous avons des tumulus coquillés. Et oui, donc à chaque fois qu'il y a un mort dans une famille, les gens vont voir le tumulus, ouvrir une brèche, mettre le corps et le recouvrir avec du coquillage. Donc nous avons des tumulus qui sont de très grandes dimensions, qui peuvent atteindre les 15 mètres. Et il y a eu des fouilles qui ont été menées au Sénégal, dans le Saloum, par des préhistoriens de l'Ifan, Sir Descamps et Guy Kilmas, un Belge. En certainement, on a vu même que ce tumulus qui peut être collectif, les gens oublient parfois qu'il y a un corps qui est enterré à tel endroit. Donc, pour mettre un nouveau corps, tiens, ils creusent, ils ouvrent, ils tombent sur des squelettes, ils les déplacent un peu pour faire la place aux nouveaux venus. Et l'archéologue qui viendra plus tard va trouver, bien sûr, des os dispersés, comme par exemple un humérus de l'autre côté, et saura que le dernier qui est venu, on a repoussé les anciens pour lui donner de la place.
Comme quoi, aujourd'hui encore, on peut lire dans les coquillages.
Mais c'est l'archéologie maintenant qui permet de déterminer cela. Parce que
c'est ça, sinon, de revenir sur une culture.
Ce que l'on voit, nous, c'est un tumulus funéraire, une nécropole géante, etc. Mais maintenant, les modalités de comment ça s'est organisé à l'intérieur, ça, c'est le processus archéologique qui le détermine.
Voilà comment on peut relire notre présent. Enfin, effectivement, c'est assez impressionnant.
Oui, ça va en site vivre.
C'est un site vivant, toujours, et qui sert aujourd'hui aux hommes et qui sert aussi, évidemment, aux archéologues autour de la question comment retracer toutes les préhistoires et puis notre histoire, finalement, comment porter un autre regard sur tout notre héritage culturel. Je propose de nous interroger sur une musique, justement, qui revisite de la meilleure manière qui soit toutes les voix du monde, en l'occurrence celle enregistrée à l'origine des chants de Pygmeaka, revisitée version jazz et instrumentale par le quartet Notong sur RFI.
Oh,
Les voix du monde, revisitées par le quartet de jazz No Tongue sur RFI, autour de la question comment retracer les préhistoires du monde en décentrant notre regard. Nouvel éclairage, celui d'un géohistorien, Christian Gratalou, qui milite pour une histoire monde, comme il le rappelait au micro de Charlie Dupiot, une histoire, une proto-histoire, voire une préhistoire qui n'oublie personne.
On les oublie toujours. Les Polynésiens, c'est des peuples partis, pour aller vite, disons, de Taïwan aujourd'hui, qui ont été jusqu'en Amérique, où ils ont ensuite pris l'arbre à pain qu'ils ont diffusé dans tout le Pacifique. Mais dans l'autre sens, ils ont été jusqu'à Madagascar. Et les langues malgaches, de même, c'est une famille des langues polynésiennes aujourd'hui. Donc, l'extraordinaire unité linguistique du Pacifique sur les langues polynésiennes en témoigne. Donc, vous avez... Le Pacifique, c'est le tiers de la surface de la Terre. Si vous prenez l'océan Indien avec Madagascar, vous avez pratiquement presque les deux tiers, enfin plus de la moitié de la surface de la Terre qui ont été parcourus par des gens sur des pirogues à balancier, qu'ils ont mis au point il y a 2000 ans à peu près, une pirogue de haute mer, sans savoir forcément au départ où ils allaient. Donc il y a dû y avoir beaucoup de pertes. Ça, ce sont des nomades. Ce sont des migrants, c'est sûr, qui ont, dans leur mythologie, fait surgir des mers, des îles, de la mer, du fond des mers, ils ont fait surgir les îles. Évidemment, ils les ont trouvées. Et qui ont relié toute une histoire de l'humanité. Voilà une mondialisation qui n'a pas eu lieu, mais qui fait rêver.
Une mondialisation qui aurait pu avoir lieu. Est-ce qu'une autre lecture, Erika, de notre histoire, de notre proto-histoire, de notre préhistoire pourrait être possible aujourd'hui, justement, avec tous ces regards différents sur des préhistoires ailleurs, que ce soit sur le continent africain, que ce soit au Brésil, et en lien avec les populations qui aujourd'hui encore en sont dépositaires.
Oui, nous avons des équipes qui travaillent beaucoup avec des populations indigènes, parce qu'au Brésil, nous avons des sites archéologiques qui sont en fait des sites des communautés actuelles.
C'est-à-dire que les communautés actuelles sont toujours sur ces sites
Oui.
Ainsi, et peuvent permettre de comprendre aussi.
Oui, il faut travailler, être un peu archéologue et un peu anthropologue. L'archéologie au Brésil est une archéologie avec l'anthropologie. C'est une archéologie des groupes qui sont vivants, et spécialement en Amazonie.
Ça change complètement la donne, là.
Ça change complètement la éthique de travail.
On ne peut pas fouiller n'importe comment. Les sites peuvent être sacrés.
Non. La décision sont des décisions. On peut avoir des décisions qui considèrent la science et aussi qui considèrent les groupes. Qu'est-ce qu'ils comprendre de l'histoire, de la préhistoire? Ce n'est pas facile.
C'est pas facile, mais en même temps, ça peut permettre peut-être de protéger plus les terrains, parce qu'on y viendra avec vous aussi, Siméon, mais vous parlez de la question des sociétés d'archéologie privées, notamment en Côte d'Ivoire. Enfin, ça peut poser souci aussi. Sinon, on peut aller n'importe comment, creuser n'importe où et sans aucune éthique.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, sur cette question, il y a quelques années, Aboulaï a piloté avec Vincent Negri un ouvrage sur cette question-là. Et on a fait une réflexion sur archéologie et interdit. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on est archéologue. Et donc, il y a une frontière entre la science, entre le scientifique et le gardien de la tradition. Et chez nous, ça compte. Mmh. Voilà, parce que quand les populations vous disent qu'ici, là, vous ne pouvez pas fouiller, mais vous ne pouvez pas fouiller. C'est comme ça et voilà, il n'y a pas de justification possible. Voilà, donc, c'est juste pour dire que ce qui se passe au Brésil, on trouve également ces réalités-là chez nous. Et donc, il faut compter avec la tradition. Voilà, donc, nous sommes dans la tradition et en même temps, nous voulons faire comprendre aux autres ce que c'est que le futur et comment entrevoir le futur. Donc, il faut tenir compte absolument du passé. Et ça, c'est très important.
Et oui, c'est très important, c'est essentiel. Et on se dit que ça fait aussi changer un peu les choses par rapport à des archéologues occidentaux qui arrivent avec leurs gros sabots et qui fouillent un peu n'importe où. Et sans d'ailleurs, parfois, en passant peut-être à côté de savoir que les populations peuvent avoir.
Je reviens un peu sur ce que vous dites, mais non, c'est vrai. Parce que dans un premier temps, moi, je suis préhistorien. Et c'est vrai que les cultures préhistoriques, ce sont des outils en pierre qu'on trouve dans la brousse, qu'on trouve un peu partout. Les communautés qui habitent à côté des sites préhistoriques, ne sont pas concernés par la pierre. Ils ne savent pas ce qu'on ramasse. Et même quand ils nous aident, quand ils veulent nous aider, ils vont ramasser n'importe quelle pierre. Et nous, en tant que préhistoriens, on leur dit non, 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 c'est pas ça qui nous intéresse. Et par contre, quand je me suis mis à travailler dans le delta du Saloum, j'ai été beaucoup plus entraîné avec une équipe de l'Université de Barcelone, parce que j'ai travaillé avec eux, dans un volet ethno-archéologique. En fait, c'est ce qu'a développé Erika tout de suite. Le principe, c'est de partir des amas-coquillés, des sites de la proto-histoire, et maintenant, de voir que ce sont les mêmes traditions que l'on retrouve aujourd'hui, c'est les mêmes modes de vie, les mêmes consommations, les mêmes aspects de sauvegarde qui sont mis en avant pour conserver les ressources naturelles, etc. Et pour essayer, en fait, on se sert du passé avec l'éclairage du présent et on essaie de voir la réciprocité, etc.
Ça, donc, ça permet de mieux comprendre, ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi aussi vous travaillez, je crois, tous, à éduquer aussi quelque part justement les populations sur place pour à la fois leur apprendre l'importance de préserver, de trouver, mais au fond tous les savoirs, c'est-à-dire quand on parle d'interdisciplinarité, là il s'agit vraiment d'interdisciplinarité. Erika ?
Oui, c'est très important que les archéologues travaillent maintenant, aujourd'hui, avec la structuration des modèles de gestion des territoires traditionnels à partir de la perspective culturelle et écologique.
Culturel et écologique, c'est vraiment les deux. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui fait changer l'archéologie. Vous, au Sud, j'ai envie de dire que vous faites changer l'archéologie, ce rapport-là, Simon.
Oui, alors ça change. Et ce qui est intéressant, je voulais insister là-dessus pour la Côte d'Ivoire. Alors, moi, ça fait 10 ans à peu près que j'enseigne. Et je me souviens qu'au tout début, il y avait juste 2-3 étudiants en archéologie. Mais aujourd'hui... on a des problèmes parce que beaucoup d'étudiants veulent faire de l'archéologie. Or, l'archéologie, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas comme la sociologie où on peut remplir un amphithéâtre d'étudiants et puis, non, ici, c'est beaucoup plus des petits groupes. Voilà. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que on s'est rendu compte que si les Ivoiriens n'avaient pas une connaissance de l'archéologie il y a peut-être 15 ou 20 ans, aujourd'hui, parce que beaucoup d'étudiants s'intéressent à l'archéologie, il y a comme un ambassadeur de l'archéologie dans chaque famille, presque. Voilà. En Côte d'Ivoire.
Parce que cet intérêt, c'est quoi ? C'est un intérêt pour le passé du continent, du pays
Oui, il y a cela parce que, d'abord, chez nous, le système, c'est qu'en première année, c'est un tronc commun. C'est-à-dire que tout le monde est là et il y a 4 départements, bioanthropologie, paléoanthropologie, socioanthropologie et archéologie. Et en année de licence, 3 ans après, l'étudiant choisit d'aller dans un département. Donc, et de plus en plus, il s'intéresse à l'archéologie. Et donc ça veut dire qu'ils veulent comprendre ce que c'est que leur passé. Ils se posent des questions. Et bon, après, il peut y avoir aussi des questions du point de vue de qu'est-ce que je deviens dans la vie. Mais le fond, c'est qu'ils veulent comprendre. Et en s'intéressant à l'archéologie, en faisant de la recherche pour soit un mémoire de master ou une thèse, ils arrivent à comprendre un point bien précis qui les intéresse.
Je propose d'écouter un morceau qui va un peu dans ce sens-là, sur l'intérêt peut-être, alors, pour l'archéologie, pour l'histoire, pour le passé, pour le réécrire, le repenser, le réimaginer aussi. Je propose d'écouter Wakanga, morceau signé Baba Mal, et morceau phare du film désormais culte Black Panthers. Wakanga, Baba Mal, extrait de la bande originale du film Black Panther sur RFI, en compagnie des archéologues et préhistoriens Abdoulaye Camara, Kwaku Siméon Kwasi et Erika Gonzalez. On découvre, ça va être... on découvre une nouvelle archéologie venu du Sud. Vous disiez, Erika, qu'il y a des archéologues indigènes au Brésil aujourd'hui.
Oui, nous avons des archéologues indigènes et c'est très important parce que ils ont une perception différente d'espace, du temps, ils ont du passé.
Qui est plus vivant pour eux,
oui,
j'imagine.
Oui, je crois que c'est que l'archéologie du futur.
L'archéologie du futur, celle par les indigènes ou celle, vous le disiez, Simon aussi, quand en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup d'étudiants aujourd'hui en archéologie, ça, tant mieux, on peut tous les saluer.
Oui, oui.
Mais quand vous allez, il faut avancer, il y a des fois peu de moyens. Vous, là aussi, vous faites appel aussi aux communautés locales.
Oui, oui, aux communautés locales. Alors, il y a très peu de moyens, donc quand c'est comme ça, comme on dit habituellement, il faut aller avec les moyens du bord. Et donc il faut aller avec ceux qui maîtrise déjà la communauté, ça permet d'ouvrir les portes, parce que chez nous, il y a juste, très rapidement, avant de faire de la recherche, on fait ce qu'on appelle les libations. C'est-à-dire qu'on verse de la boisson forte pour implorer la clémence des membres des ancêtres. Voilà. Donc, s'ils sont
ne pas heurter les ancêtres.
Voilà, pas heurter. S'ils sont d'accord, ils vous donnent l'autorisation. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vous donnent pas l'autorisation. Et donc, pour tout ça, il faut arriver à se concilier avec eux et justement, ceux qui viennent de ces communautés ont une approche beaucoup plus intéressante et il faut compter avec.
Puis les ancêtres, ils ont peut-être raison de ne laisser finalement fouiller ou creuser que ceux qui sont familiers. Abdoulaye Camara, c'est vrai que l'archéologie, enfin Erika disait que ce serait l'archéologie du futur, celle qui est aux mains de ceux qui y habitent sur ces terres-là. Ça semble quand même extrêmement logique et qui ont su préserver l'environnement, mais pas seulement.
Et surtout, c'est aujourd'hui, je pense que ce qu'on met le plus en avant, c'est le côté patrimonial. En fait, pour montrer que ce sont des valeurs essentielles et que ce sont des sites qu'il faut conserver, ce sont des sites qui sont en fait des livres ouverts, ce sont des sites qu'il faut les détruire, c'est en fait détruire des archives du passé. Et je pense que maintenant, il faut arriver à faire comprendre ça pour nous, aux communautés qui sont établies sur place. Mais également, l'autre élément, c'est leur montrer qu'ils peuvent en tirer profit. Parce qu'aujourd'hui, quand même, dans la plupart des pays africains, comme à Dakar, le tourisme, quand même, joue plein. Et que
et
les gens qui viennent dans le delta du Saloum ou en Casamance, c'est des paysages qui sont magnifiques, des paysages très, très beaux, et également qui sont riches en culture. Maintenant, il faudrait seulement qu'on puisse mettre à la disposition de toutes ces communautés des musées, des écomusées, des endroits où ils vont présenter leur culture, leurs objets culturels et également leurs rituels, présenter leurs traditions. Et je pense que également sur
Erika,
ce plan,
c'est là-dessus que vous travaillez aussi au Brésil.
Oui, et aussi au sein de la commission scientifique de la UISPP que je préside actuellement, nous œuvrons afin d'intégrer des modèles, des politiques de gestion du patrimoine archéologique et aussi rassembler les bonnes pratiques et les expériences issues des différents pays et continents.
Merci infiniment à tous les trois d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir en direct dans notre studio sur RFI. Moi, je vous réinvite quand vous voulez et quand vous revenez. Mais je suis obligée de vous laisser repartir au Congrès mondial de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques à Paris, capitale mondiale de la préhistoire, toute cette semaine. Pour en savoir plus, le lien est sur notre page. Merci à vous trois.
Merci.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles interrogations près de nos arbres, avec Apolline Vallon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité. Prochain journal dans une minute sur RFI.